Ce mercredi 29 novembre se tenait en préfecture de la Loire la réunion annuelle du CLAV, le comité local d'aide aux victimes. Ici, les services de l'État, les services judiciaires institutionnels se concertent avec les associations qui y travaillent au quotidien autour des violences faites aux femmes et intrafamiliales pour analyser les chiffres, mettre en avant les initiatives et se regrouper pour faire reculer les violences intrafamiliales. Écoutons tout d'abord Alexandre Rochat, préfet de la Loire.
Ce qui importe, c'est de se savoir qu'en fait, on réunit ici, dans cette instance, l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les associations qui viennent en appui des victimes des violences faites aux femmes, mais aussi les institutionnels. Vous avez vu que la justice était très présente, puisqu'évidemment, il y a très souvent des enquêtes, des plaintes, et donc des enquêtes et des condamnations qui sont assorties. Et puis, les institutions qui viennent en appui de tout ce qui est appui social. Le département était présent, puisqu'il a une grande part de responsabilité, comme vous le savez. Et puis, les services de l'État. L'idée de ce CLAV, c'est de réunir tous ces acteurs, toutes ces parties prenantes. On se réunit assez régulièrement, mais là, pendant une fois par an, on fait un point de tout ce qui a été fait, on fait un bilan des chiffres, hein, puisque c'est important, comme vous le savez, depuis que le gouvernement a décidé de faire de ce sujet vraiment une priorité nationale et le Grenelle contre la violence faite aux femmes. On travaille beaucoup sur le sujet et on ne voit les chiffres augmenter tous les ans. Le procureur vient de le dire, en Espagne, où cette démarche avait été lancée avant la France, il a fallu attendre 7 ans de croissance de chiffres pour que les chiffres stagnent et commencent à baisser. Parce qu'il y a aussi une libération de la parole, comme vous le savez. Il y a deux choses. Il y a vraisemblablement plus de violences faites aux femmes, notamment dans le cadre familial, ça j'y reviendrai. Mais il y a aussi beaucoup de libération de la parole, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui osent et qui franchissent le pas de se signaler, de porter plainte, d'aller au commissariat ou de demander aux policiers ou aux gendarmes de venir chez elles pour pouvoir porter plainte. Et donc ensuite, il y a un suivi qui est évidemment fait de façon importante. Je le disais tout à l'heure, c'est dans le cadre familial que la plupart de ces drames arrivent. Drames quand ça peut aller jusqu'à un féminicide. Vous savez qu'on en a eu un en 2023 dans le département de la Loire, deux en 2022. Donc c'est comme partout au niveau national, la Loire est concernée évidemment par ce sujet dramatique. Mais tout le spectre est compris dans le département de la Loire. Donc on a tout type de violence. Ça commence par les outrages. Et il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées pour outrage. Et c'est aussi un point qui est important, parce que ça aussi, ça libère la parole. Et puis ça permet d'aller traiter en amont, avant peut-être que des gens passent à des actes plus graves. On a tout l'arsenal qui se met en place pour éviter que ça n'aille plus loin.
L'accompagnement des victimes se fait aussi d'une manière uniforme. Il faut que tout le monde ait le même discours pour que l'on puisse bien guider les personnes vers les services adéquats entre associations, entre services de police, etc. Est-ce que ça aussi, ces réunions annuelles, ça sert à ça ?
Alors si vous me permettez, je vais un petit peu nuancer votre question. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut qu'on ait un principe de guichet unique. Il faut que chacun puisse savoir à qui il doit s'adresser. Et ensuite, que chaque association, que chaque acteur institutionnel, quand il a un cas, il puisse prévenir les autres. En fait, ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, on le fait aujourd'hui, les associations d'appui aux victimes, elles sont là aussi et elles signalent, ou en tout cas, elles conseillent aux gens de porter plainte et d'aller au commissariat ou d'aller à la gendarmerie ou d'appeler des policiers et des gendarmes chez elles ou de les rencontrer dans des lieux neutres. Vous savez aussi, ça, c'est une possibilité qui est ouverte. En revanche, je pense que comme on est évidemment sur des drames humains, il faut qu'on ait des adaptations de tous nos outils. C'est pour ça qu'on développe énormément de choses. J'ai parlé beaucoup d'expérimentation. Je pense que c'est un outil qu'il faut qu'on utilise. Chaque association, chaque institution a aussi sa manière d'approche qui lui permette de s'adapter au cas précis, à la situation familiale, à l'expérience, au vécu de la personne, pour que, eh bien, on fasse de l'adaptation et du travail sur mesure. Je pense que c'est vraiment très important. On a eu tout à l'heure le témoignage, et c'est important peut-être que vous y alliez, d'un centre particulier à Rouen, au centre hospitalier de Rouen qui s'est monté autour d'une approche multidisciplinaire avec le pôle de l'Institut médico-légal de Rouen, avec une psychiatre, le docteur Lançon, qui a monté un pôle et qui justement traite les victimes de façon individuelle évidemment et de façon multi-service ou multi-capacité médicale d'appui psychologique. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir adapter les choses.
Alors ces expérimentations-là, est-ce que vous motivez aussi le fait de les faire voyager sur le département ?
Oui, alors c'est ça aussi l'idée du CLAV, hein, c'est de partager. Là, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient très intéressés par cette expérience. Et l'idée, c'est de voir si on peut pas développer la même chose à Saint-Étienne. Vous voyez, c'est vraiment de monter et d'utiliser toutes les initiatives pour les partager.
Alors les violences faites aux femmes, ce sont aussi des violences intrafamiliales avec les enfants qui sont aussi témoins et victimes.
Oui, bien sûr. Alors, on a inauguré, vous savez, c'est là, le 25 novembre est une journée importante. On a inauguré la semaine dernière à l'hôpital une unité particulière de traitement pour les enfants, pour que les enfants puissent, pour qu'on puisse prendre en compte leur témoignage dans un environnement particulier. Et donc, cette cellule-là montre bien que l'enfant est évidemment au cœur de nos préoccupations. Un chiffre qui est, je crois, important et qui sera parlant, c'est que quand vous regardez toutes les interventions de police secours, donc en zone police ici à Saint-Étienne, de façon élargie, il y a 10 interventions par jour qui ont trait à la violence intrafamiliale. 10 interventions par jour, en moyenne. Donc si vous multipliez par le nombre de jours dans l'année, vous aurez le chiffre global. Ça vous montre bien qu'on a une prise en compte et c'est intrafamilial et très souvent il y a des enfants.
Alors cette réunion est aussi l'occasion de dévoiler une campagne de communication menée entre autres par SOS Violence Conjugale 42, le CIDFF, la CARS et bien sûr la ville, les services de l'État. Ça, la communication dans ces transports en commun, quel regard vous portez dessus ?
C'est essentiel, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on reboucle, on part de la sensibilisation et de l'information et de la libération de la parole. Eh bien les deux partent par de la communication. Il faut que ce sujet ne soit pas un sujet qui soit tabou. On a vraiment besoin de le partager et pour le partager, le mieux c'est de la communication et de développer tout type de support de communication. Il y a des messages radio, il y a des messages des spots télé d'ailleurs qui sont nationaux. Et ici dans la Loire, depuis 5 ou 6 ans, le collectif donc, qui réunit toutes ces associations dont vous avez parlé, travaille sur la communication et font communiquer des gens qui sont victimes. En fait, il y a tout un travail thérapeutique aussi derrière ce travail qui est mené. Et là, il est présenté derrière vous, donc avec une campagne de photos qui mettent en image des victimes de violences qui elles-mêmes ont développé à la fois le projet et les messages qu'elles veulent divulguer.
La justice était présente lors de cette réunion du CLAV pour rappeler son engagement sur les vifs, les violences intrafamiliales. Rencontre avec le procureur de la République de Saint-Étienne, David Charmatz.
Ah ben ça évoque un quotidien. Du ministère de la Justice. Les violences intrafamiliales, comme toutes les violences, ont beaucoup augmenté ces dernières années et représentent un pourcentage très important des dossiers que nous traitons. Donc on s'est organisé bien évidemment pour faire face à ce phénomène, pour le prendre en compte, le traiter de façon différenciée selon la gravité des faits et selon la personnalité des auteurs, avec des réponses donc distinctes et différentes, et puis surtout avec des magistrats référents en matière de vif, un dans chaque juridiction, un à Roanne comme à Saint-Étienne, et on a bénéficié pour cette prise en charge de ce domaine de délinquance spécifique, de contractuel, et notamment un chargé de mission vif, ce qui nous permet de traiter une affaire, non pas sous l'angle uniquement pénal, mais vérifier aussi ce qu'il en est de la situation des enfants, vérifier si au plan civil, en termes de divorce, etc., il y a d'autres procédures en cours, et donc d'avoir une vision un peu plus collective autour de ce phénomène-là.
L'objectif est donc d'apporter une réponse pénale, mais aussi de prendre en compte les victimes et de les accompagner. Comment on mêle les deux avec associations, avec les structures locales ? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique ? Et vous l'avez évoqué avec une personne dédiée à ça.
Oui, alors, nous, dans la Loire, on a la chance de pouvoir travailler avec une association, notamment à Saint-Étienne, qui est SOS Violence Conjugale, qui est une association dédiée aux femmes battues, comme on le disait auparavant, de façon très claire, et ce qui, à mon sens, parlait bien de ce que ça signifiait. Et donc, dès lors qu'on expérimente ou qu'on met en place un dispositif de traitement pénal, on vérifie à chaque fois que la victime bénéficie de cette prise en charge. Il y a un autre aspect de prise en charge des victimes qui se traduit par des outils judiciaires que sont le téléphone grave danger, lorsque effectivement les victimes, au-delà d'une prise en charge légitime de leur situation, ont une inquiétude majeure liée aux faits subis et à la personnalité de l'auteur, et où là la justice doit aider les associations partenaires en faisant bénéficier la victime d'un outil de protection qui est le téléphone grave danger. On en a 46 dans la Loire, il y en a 35 à Saint-Étienne, 11 à Roanne, et on les utilise, je dirais, quasiment hebdomadairement. Il y a un ou deux TGD qui sont remis. Parallèlement, il y en a un ou deux qui sont enlevés parce que la situation de danger n'existe plus. Et là aussi, ça fait l'objet pour les victimes d'un accompagnement fort parce que c'est rassurant, c'est protecteur. Et on sait que ça marche parce que les quelques cas dans lesquels il y a eu un déclenchement, immédiatement, la police ou la gendarmerie intervient et permet d'éviter le passage à l'acte violent. Donc ça fait partie des choses importantes. Et les victimes, à chaque fois qu'on met en place, par exemple, un contrôle judiciaire dédié aux auteurs de violences conjugales, avec du contenu concernant l'auteur, avec un travail qui est fait avec lui sur l'acte qu'il a commis, sur sa responsabilisation avec l'obligation de faire un stage de prévention des violences conjugales, la victime pendant le même temps est épaulée par une association des deux victimes et on fait en sorte qu'elle arrive dans la procédure en ayant bien compris ce qui allait se passer et qu'elle soit encore une fois entourée.
Les actualités récentes et même plus vieilles ont montré que de temps à autre, la justice n'agit peut-être pas assez rapidement et que des victimes de violences se font tuer clairement par leur conjoint. Ici, est-ce que ce regard particulier par rapport à ces événements-là, qu'est-ce qu'on ajuste, à quoi on réfléchit ?
Alors, c'est les drames dont vous faites état, qu'ont endeuillé Mérignac, mais aussi la région parisienne, secouent tout le monde, bien évidemment, et a fortiori les magistrats qui ont en charge, et notamment les procureurs, qui ont en charge ces situations. Ça secoue aussi beaucoup les gens de chaque service, les conseillers d'insertion qui suivaient les auteurs dans ce cadre-là, les policiers gendarmes qui parfois avaient recueilli les plaintes et où l'attention suffisante n'y avait pas été apportée. Bref, malgré l'investissement de chacun dans les différents métiers, au stade où ils se trouvent, ces drames-là rappellent qu'il faut travailler ensemble, faire passer l'information, être attentif aux situations. La justice bénéficie depuis 2 ans de postes de chargé de mission dédiés aux VIF, et ces postes-là sont très importants parce qu'ils permettent notamment, et c'est un des critères de priorité mis en avant, de traiter tous les sortants de prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sortant de prison qui a été incarcéré pour des violences conjugales ne doit pas sortir de prison parce qu'il a vocation à sortir de prison, il a fini sa peine ou il bénéficie de permission de sortie, bref. Il ne doit pas sortir de prison sans qu'on ait vérifié auprès de la victime qu'elle est au courant de cette sortie, qu'elle est prise en charge si jamais il y a une inquiétude et qu'elle est éventuellement protégée par un TGD. Et donc ce travail-là doit permettre d'éviter les drames que vous avez évoqués. Au-delà de ça, il faut avoir un bon diagnostic des situations pour mesurer le danger qu'elles représentent. Et des notions là-dessus évoluent. En 2022 a émergé la notion de contrôle coercitif. C'est une notion qu'on n'utilisait pas auparavant. C'est une notion, lorsque une victime dépose plainte en police gendarmerie, il y a une fiche de diagnostic de la situation de danger qui est faite. Et la notion de contrôle coercitif, elle n'est pas dans cette fiche. Parce qu'à l'époque, quand ces fiches de danger ont été créées, cette notion n'existait pas. Et on s'est rendu compte maintenant que le contrôle coercitif fait partie des situations dans lesquelles il faut être absolument vigilant, parce qu'en réalité, c'est une situation d'emprise de l'auteur sur sa femme et qui va se manifester lorsque celle-ci va vouloir le quitter, par exemple, par une explosion de violence. Et donc, il faut qu'on soit très attentif à ces situations-là pour éviter les drames. Ça implique aussi de former continuellement les professionnels de la justice, mais aussi les services d'enquête, genre policiers et gendarmes, à ces notions évolutives pour qu'on soit bien attentif à la prise en compte du danger.
Une association telle que SOS Violence Conjugale 42 met en place un dispositif qui s'appelle Virage, qui est un accompagnement des auteurs. Est-ce que là aussi, vous guidez les auteurs systématiquement vers ce dispositif-là ? Ou, si ce n'est pas systématique, est-ce que vous les guidez de temps à autre ?
Alors, ce que vous évoquez est très important. Il y a, s'ils l'ont appelé Virage, c'est parce qu'effectivement, pour une association qui s'occupe des victimes, se préoccuper des auteurs représentait un changement d'orientation, qui n'est pas forcément accepté par toutes les associations qui travaillent sur les violences conjugales. Moi, à titre personnel, je suis ravi que ça ait pu être le cas à Saint-Étienne, parce que ça nous a donné un outil important de travail sur ce sujet, qui est le stage de lutte contre les violences conjugales. Ce stage-là, il a été créé par Virage et SOS donc, en 2016. Les 2-3 premières années, il y a eu, de 15 à, en 2020, il y avait 50 stagiaires par an. Nous avons fait de ce stage, par exemple, la réponse minimale à toute auteur de violence conjugale. Pas à 100%, mais à 80-85%. En 2022, on a orienté dans ces stages 344 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 344 auteurs de violence conjugale, certes d'une gravité moindre que d'autres, qui sont passés par ce stage dans le seul but de prévenir la récidive. Donc vous voyez, le travail fait par une association comme SOS est immédiatement utilisé et valorisé par la justice. On a d'ailleurs un protocole avec SOS pour définir le contenu du stage, sa durée, son coût, et faire en sorte que ce circuit soit rapide. Et pour répondre aussi à votre question, aujourd'hui, quand quelqu'un commet des violences conjugales, peuvent relever d'une alternative, une composition pénale, il y a un circuit court qui a été élaboré, c'est-à-dire que la personne, elle sort de gendarmerie ou de police, elle est reçue par un délégué du procureur dans le mois, et dans les 2 mois qui suivent cette réception, elle va effectuer ce stage de violence conjugale. Donc quelque part, 3 mois après avoir commis les faits qui lui sont reprochés, et qu'il a reconnu d'ailleurs, la plupart dans tous les cas, parce qu'autrement, ce n'est pas une procédure qui est utilisable, il va pouvoir être pris en charge. Et donc je dirais, collectivement, on agit dans un temps bref, et ça permet, que la réflexion elle est véritablement un effet sur la personne.
Depuis quelques années, le collectif du 25 novembre se mobilise autour d'actions de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, dont il tire son nom de la journée internationale dédiée. Rencontre avec Madame Marty, présidente du CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, à ce sujet.
C'est très important, même si ça peut paraître ce qu'on appelle quelquefois les grands messes, entre guillemets. Mais c'est quand même extrêmement important pour nous, parce que ça nous permet de continuer de travailler en réseau pour l'interconnaissance de toutes les associations, de savoir quelles sont nos actualités, ce que l'on fait, où on en est et sur qui on peut s'appuyer en cas d'une problématique.
Dans ce cadre des violences faites aux femmes, comment agit le CIDFF ? Quelles sont les personnes référentes qui peuvent aussi accueillir, guider des femmes qui serait dans cette situation?
Alors, nous, on n'agit pas directement, je dirais, comme par exemple SOS Violence Conjugale. Nous travaillons en amont et nous sommes un peu prescripteurs, en quelque sorte, de SOS Violence Conjugale, puisque nous sommes un centre d'information du droit des femmes. Donc, nous avons deux juristes, puisque nous travaillons avec un agrément de l'État, nous avons deux juristes professionnels qui sont là pour accueillir de façon tout à fait anonyme, inconditionnelle et gratuite toutes les femmes qui peuvent se présenter. Et nous les informons sur leurs droits et surtout nous essayons de détecter les problématiques, parce que quelquefois les violences elles viennent nous voir sous un prétexte et c'est à nous de gratter et de s'apercevoir qu'en fait leur venue n'est qu'un prétexte, mais que derrière cette venue il y a une problématique de violence. Donc à ce moment-là nous faisons très souvent des signalements à la cellule préoccupante ou quelquefois directement au procureur. Et ensuite, nous les accompagnons auprès de SOS Violence Conjugale. Et ce que j'ai envie de dire aussi, ce qui est très important pour nous, et moi en tant que présidente du CIDFF, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Là, par exemple, dans cette réunion, nous avons parlé bien sûr des victimes et des auteurs. Mais il y a quelque chose d'important, je crois, c'est la prévention, c'est tout le travail en amont. Donc nous avons un rôle aussi, nous intervenons auprès des écoles, on travaille avec l'éducation nationale, nous intervenons à la faculté, à l'ENISE, à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, où maintenant nous sommes intégrés dans le cursus aussi bien pour intervenir auprès des élèves et auprès des professeurs de façon à déconstruire tous les stéréotypes sexistes pour pouvoir prévenir justement tout ce qui peut devenir des violences dans l'avenir.
Alors sensibiliser, prévenir, montrer aussi, c'est l'objet d'une campagne de communication dont vous êtes partenaire, avec des photos de femmes qui ont posé devant un objectif et qui ont fait un travail avec une photographe autour de ces violences-là. C'est important aussi que ces violences soient affichées sur l'espace public.
Ah oui, bien sûr, parce que là, nous, par exemple, cette réunion, on est entre soi, on est entre professionnels, associations institutionnelles, mais ce qui est très important, c'est que ce soit rendu public, vraiment dans l'espace public, que les gens se rendent compte réellement de la réalité des choses, et on espère que ça les amène aussi à réfléchir.